Ces menaces les firent trembler. Le chrétien surtout en fut si effrayé qu'il tomba en défaillance. Mais, après qu'il fut un peu revenu à lui-même, les deux amis renouèrent conversation et délibérèrent sur le parti qu'ils devaient prendre, car le chrétien inclinait à suivre le conseil du désespoir, mais l'espérant s'y opposa vivement. « Mon frère, disait-il, ne vous souvient-il plus de la fermeté que vous avez fait paraître jusqu'ici ? Rien n'a pu vous ébranler la fureur d'Apollyon, le fardeau accablant que vous portiez, les affreux objets que vous avez vus dans la vallée obscure, les cris lugubres que vous y avez entendus, en un mot mille accidents, qui vous sont arrivés dans votre route. Rien n'a été capable de vous faire perdre courage, et maintenant vous êtes la faiblesse même. Quant à moi, j'espère un sort plus favorable, quoique ma condition présente ne diffère en rien de la vôtre, quoique je suis assujetti aux mêmes maux et que j'ai beaucoup moins de force et d'expérience que vous. Prenez donc patience avec moi, mon cher ami. Rappelez dans votre souvenir la force que vous avez toujours fait paraître et, en particulier, le courage invincible avec lequel vous avez affronté, dans la foire de la vanité, les chaînes, les prisons, le carcan et la mort même dont vous étiez continuellement menacé. Et si cela ne suffit pas, que du moins la considération du blasphème auquel le christianisme est exposé quand on se soustrait aux souffrances nous porte à tous souffrir avec patience jusqu'à l'éternité. C'est ainsi que les deux pèlerins passèrent le reste de la nuit suivante. Mais à peine le jour commençait à apparaître que les géants les traînent dans la cour, suivant le conseil de sa femme, et leur montrent des os qui y étaient semés de toutes parts. Ceux-ci, leur dit-il, étaient aussi des voyageurs comme vous. Ils vinrent sur mes terres comme vous l'avez fait, et je les ai punis de leur témérité, je les ai mis en pièces. Et avant que deux jours soient passés, vous pouvez compter que vous subirez la même peine. Retournez dans votre cachot. En même temps, il les chassa devant lui jusqu'à la prison, où ils demeurèrent jusqu'au samedi dans un état très pitoyable. La nuit étant revenue, comme l'incrédulité et le désespoir s'entretenaient encore de l'état des prisonniers, le vieux géant témoignait à sa femme l'extrême surprise qu'il avait de ne pouvoir venir à bout, ni par ses coups, ni par ses suggestions, de les pousser à se donner la mort. « Je crois, dit sa femme, qu'ils vivent encore dans l'espérance que quelqu'un viendra les délivrer ou qu'ils trouveront quelque trou souterrain pour s'enfuir. Croyez-vous cela ? Dit le géant. Il faut donc que demain je les soumette encore à une nouvelle épreuve ? Cependant, les prisonniers s'étaient mis à prier dès le milieu de la nuit du samedi et jusqu'au point du jour. Enfin, le chrétien, un peu avant que le jour parût, éclata en ces mots « Que je suis insensé de demeurer couché dans cette fosse puante, au lieu de me mettre en liberté. N'ai-je pas en mon sein une clé nommée promesse qui doit ouvrir sûrement toutes les serrures de ce château du doute ?» Quelle bonne nouvelle, mon cher frère ! Dit l'espérant. Sortez-la, je vous prie, et essayons si elle pourra ouvrir. Le chrétien se hâta donc de sortir cette clé et commença par l'essayer à la porte de la prison. La chose réussit parfaitement, car il ne l'eut pas plutôt tourné une fois que la porte s'ouvrit avec éclat, de sorte qu'ils sortirent tous deux. Ils allèrent ensuite à une porte de fer qui donne sur la basse cour du château, qu'ils ouvrirent également sans peine par le moyen de cette clé. Ils trouvèrent après une autre porte de fer qui était très difficile à ouvrir, cependant cette clé l'ouvrit avec la même facilité. Enfin, ils se hasardèrent d'ouvrir les grandes portes pour être en état de poursuivre et de hâter leur voyage. Elles s'ouvrirent en effet, mais elles firent un si grand bruit en s'ouvrant que le géant en fut éveillé. Il soupçonna d'abord ce que c'était et il voulut se lever en hâte dans le dessein de poursuivre ses prisonniers, mais sa maladie le saisit avec tant de violence qu'il n'eut pas la liberté de se servir de ses membres, de sorte que les voyageurs eurent tout le temps de s'enfuir. Ainsi, ils se hâtèrent de se rendre au chemin royal où, n'étant plus sur les terres du géant, ils se retrouvèrent en parfaite sûreté. Après avoir repassé la planche, ils cherchèrent quel serait le signal le plus convenable qu'ils pourraient y mettre pour empêcher ceux qui viendraient après eux de tomber en la puissance du géant désespoir. et ils trouvèrent bon d'y placer une colonne avec cette inscription au-delà de cette planche et le chemin qui conduit au château du doute, possédé par le géant des espoirs, qui méprise le roi de la cité céleste et qui cherche à faire périr les saints voyageurs. Cette inscription a été dès lors fort utile à plusieurs voyageurs qui, par ce moyen, ont évité le péril. Après cela, nos pèlerins élevèrent leur voix pour chanter ce cantique. Ô sécurité flatteuse, que tu nous causes de maux et qu'une âme est malheureuse, qui cherche en toi son repos. Tu nous promets des délices, mais tout ce que tu promets se termine à des supplices qui ne finiront jamais. Par certaines voies unies couvertes de faux appâts, du droit chemin de la vie tu sais détourner nos pas. L'orgueil que tu nous suggères avec tes illusions cache à nos yeux nos misères, nos vices, nos passions. Tu nous enivres sans cesse du doux et subtil poison de l'aise et de la paresse qui fait à rire l'oraison. Tu nous conduis dans la voie où, sans s'en apercevoir, on devient enfin la proie du doute et du désespoir. Ô sécurité trompeuse, que tu nous causes tant de maux. Et qu'une âme est malheureuse, qui cherche en toi son repos. Plutôt, âme désireuse des biens de l'éternité, fuyez ces voies flatteuses, fuyez la sécurité. Veillez. Ne cessez de suivre le chemin semé de croix. Lui seul peut nous introduire au palais du roi des rois. Chapitre 27. Les aimables collines, aveugles, enfer, illumination. Après cela, continuant leur voyage, ils arrivèrent aux aimables collines, qui appartiennent aussi au seigneur du coteau, donc nous avons parlé ci-dessus. Ils y montèrent pour y voir les beaux jardins, les vignes et les fontaines agréables qu'on y découvre. Ils y burent, ils s'y lavèrent, et ils mangèrent sans empêchement du fruit de la vigne. Au haut des collines, on voyait des bergers qui gardaient leurs troupeaux des deux côtés du grand chemin. Nos pèlerins allèrent droit à eux pour jouir de leur entretien, s'appuyant sur leurs bâtons, comme les voyageurs sont accoutumés de faire quand ils sont fatigués et qu'ils s'arrêtent en chemin pour parler à quelqu'un. Ils demandèrent aux bergers à qui appartenaient ces aimables collines et les brebis qui y paissaient. Les bergers, c'est le pays d'Emmanuel et les collines sont situées en vue de sa ville. Ses brebis lui appartiennent aussi, car il a donné sa vie pour elles. Jean 10, 14 Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Le chrétien, c'est ici le chemin de sa ville? Les bergers, oui, c'est le droit chemin. Le chrétien est-elle encore éloigné? Les bergers, très éloigné, excepté pour ceux qui ne se détournent ni à droite ni à gauche. Le chrétien, le chemin est-il sûr ou périlleux? Les bergers, il est sûr pour les fidèles sujets du roi, mais les rebelles y trébucheront? Le chrétien, ne peut-on point trouver ici de rafraîchissement pour des voyageurs lorsqu'ils sont fatigués et qu'ils défaillent en chemin? Les bergers, le seigneur de ces collines nous a commandé d'exercer l'hospitalité et de faire accueil aux étrangers. Hébreux 13, 2 N'oubliez pas l'hospitalité, car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. C'est pourquoi tous les biens de ces lieux sont à votre disposition. Après que les bergers eurent ainsi satisfait à toutes leurs demandes, ils les questionnèrent à leur tour sur diverses choses auxquelles nos deux voyageurs répondirent fort pertinemment. Entre autres, ils leur demandèrent comment ils étaient parvenus à cette montagne, par quels moyens ils avaient pu poursuivre leur voyage jusque-là, car, ajoutèrent-ils, du grand nombre de ceux qui se mettent en chemin, il y en a bien peu qui parviennent jusqu'à ces collines-ci. Les voyageurs donnèrent à toutes ces questions des réponses, dont les bergers demeurèrent fort satisfaits, de sorte qu'ils commencèrent à les regarder d'un œil très favorable et à entrer dans une étroite familiarité avec eux. Les noms de ces bergers étaient la connaissance, l'expérience, la vigilance et la sincérité. Ils prirent les pèlerins par la main et les menèrent dans leur tente, où ils leur donnèrent tout ce qu'ils pouvaient présenter, les priant de faire quelques séjours parmi eux, afin de faire plus ample connaissance et afin qu'ils puissent être mieux restaurés des fruits salutaires de ces collines, à quoi ils consentirent d'autant plus volontiers qu'il était déjà très tard. Ainsi ils passèrent là la nuit. Je vis qu'au point du jour, les bergers éveillèrent le chrétien et l'espérant pour les emmenèrent promener sur les collines. Ils sortirent donc ensemble et marchèrent pendant quelque temps, ayant de tous côtés une vue magnifique. Alors un des bergers dit aux autres, « Ne voulons-nous pas faire voir quelques raretés à nos voyageurs ?» Ce que chacun ayant approuvé, ils les menèrent pour cet effet, sur la cime d'un coteau nommé l'Erreur, qui était fort escarpé d'un côté. Ils leur dirent de regarder en bas. Dès qu'ils eurent tourné les yeux de ce côté-là, ils aperçurent au fond plusieurs personnes étendues, qui étaient brisées au point d'être méconnaissables. « Que veut dire ceci ?» dit le chrétien. « N'avez-vous point, répondirent les bergers, entendu parler de ceux qui tombent dans l'erreur pour avoir, comme dit un apôtre, écouté Hymenée et Philette, entre autres choses, au sujet de la résurrection ?» 2 Timothée 2, 17 et leurs paroles, rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hymenée et Philette. Oui, plus d'une fois, répliquèrent-ils. Sur cela, les bergers continuèrent, disant, « Ce sont ceux-là que vous voyez étendus au pied de cette montagne, et qui y sont demeurés jusqu'à présent sans sépulture, pour être en exemple aux autres, afin qu'ils ne veuillent pas monter trop haut ou s'approcher trop près du bord de cette montagne. » Je vis ensuite qu'ils les menèrent sur une autre colline nommée Prends-Garde. Ils leur dirent de regarder aussi loin que leur vue pourrait s'étendre, ce qu'ils firent. Et il leur sembla qu'ils voyaient diverses personnes allant et venant dans des cimetières, et comme ces gens heurtaient souvent des pieds contre les tombeaux et qu'ils ne pouvaient pas s'en tirer, ils jugèrent que c'était des aveugles. Le chrétien, qu'est-ce donc que cela ? Les bergers, ne voyez-vous pas, au pied de cette colline, une planche qui conduit dans une prairie qui est à notre gauche ? Le chrétien, l'espérant, oui. Les bergers, il y a un sentier qui conduit depuis cette planche tout droit au château du doute, dont le géant des espoirs est le seigneur. Ces hommes montrant du doigt ceux qui marchaient parmi ces sépulcres étaient des voyageurs, comme vous, qui étaient arrivés jusqu'à cette planche. Et parce que le chemin, en cet endroit, est un peu rude, ils résolurent de passer par la prairie, où le géant des espoirs les surprit et les jeta dans un cachot, et, après les y avoir laissés croupir quelque temps, il leur creva les yeux. Ensuite, il les mena dans ses cimetières, où il les a laissés jusqu'à ce jour, afin que fût accomplie la parole du sage l'homme, qui se fourvoie du chemin de la prudence, aura sa demeure parmi les morts. Le chrétien et l'espérant, ayant ouï ces paroles, commencèrent à se regarder l'un l'autre avec les larmes aux yeux. Ils ne dirent cependant rien aux bergers. Les bergers menèrent encore les pèlerins dans une espèce de vallon enfoncé, où il y avait une porte à côté d'une colline. Les bergers ouvrirent cette porte et leur dirent d'y regarder. C'était un lieu fort obscur. Alors le chrétien demanda ce que c'était. Les bergers, c'est d'un chemin qui aboutit à l'enfer, et où marchent les hypocrites, savoir ceux qui vendent leur droit d'aînesse comme Esaü, ceux qui trahissent leur maître comme Judas, ceux qui blasphèment l'évangile comme Alexandre, et ceux qui mentent au Saint-Esprit, comme Anania et Saphira. L'espérant, je remarque que chacun d'eux est équipé en voyageur comme nous. N'en est-il pas ainsi? N'avait-il pas notre costume? Les bergers, cela est vrai, et ils sont même allés assez loin. L'espérant, jusqu'où sont-ils venus avant que d'être ainsi misérablement rejetés? Les bergers, quelques-uns ne sont pas venus jusqu'à cette montagne, mais d'autres l'ont dépassée de beaucoup. Oh! S'écrièrent alors les deux voyageurs, qu'il est nécessaire que nous invoquions sans cesse le secours du Tout-Puissant, afin qu'il nous affermisse et nous soutienne jusqu'au bout. Les bergers, oui, sans doute, nous devons l'invoquer continuellement, et il faut aussi que vous fassiez usage de la force, qu'il vous donnera une fois que vous l'aurez reçu. Là-dessus, les voyageurs ayant témoigné le désir de continuer leur voyage, les bergers y consentiraient et voulurent même les accompagner jusqu'à l'endroit où finissent les collines. Alors les bergers se dirent l'un à l'autre, « Nous pourrions bien faire voir d'ici à nos voyageurs les portes de la cité céleste avec des lunettes d'approche, ils ont une bonne vue. » Les voyageurs n'eurent pas plus tôt entendu cette proposition qu'ils témoignèrent beaucoup d'empressement d'en profiter. C'est pourquoi les bergers les menèrent jusque sur la cime d'une très haute montagne nommée Illumination et leur donnèrent des lunettes d'approche par lesquelles ils essayèrent de regarder. Mais les choses qu'ils venaient de voir les avaient tellement émus qu'ils en avaient encore les mains tremblantes, de sorte qu'ils ne pouvaient pas se maintenir assez fermes pour remarquer les objets distinctement. Cependant, il leur sembla voir quelque chose de semblable à une porte et quelques rayons de la gloire de ce lieu. Ils se mirent à chanter. Apprennent avant tout à connaître les vérités qui sont du ciel. Déjà, c'est un profond mystère que les sages, les entendus, n'aient point de part dans cette affaire, ils sont renvoyés confondus. Pour en avoir la connaissance, il faut être des plus petits, laisser là toute autre science, devenir de simples brebis. C'est près d'un tel pasteur fidèle qu'une âme, en sa perplexité, trouve des conseils pleins de zèle pour sortir de calamité. Heureux berger. Brebis heureuse, qui, ne craignant aucun danger, suivez les traces lumineuses de votre souverain berger. Or, comme nos pèlerins étaient disposés à continuer leur chemin, l'un des bergers leur donna une adresse pour la route, un autre les exhorta à se méfier des mauvais compagnons de voyage, le troisième les avertit de ne pas s'endormir sur le terroir enchanté, et le quatrième leur souhaita un bon voyage. Après quoi ils se séparèrent et les voyageurs quittèrent ces aimables collines pour continuer leur route. Chapitre 28. L'ignorant, un apostat, le faible en la foi. Un peu à côté de ces coteaux, il y a un pays, nommé Imagination, d'où l'on vient par un petit sentier qui aboutit au chemin où marchaient les voyageurs. Un nommé l'ignorant, jeune homme présomptueux, qui venait de ce pays, rencontra dans cet endroit l'espérant et le chrétien. Ceux-ci lui demandèrent d'où il venait et où il voulait aller. « Je suis, répondit-il, du pays que vous voyez ici à main gauche. Je quitte mon pays natal et je vais à la cité céleste. » « Comment est-ce, dit le chrétien, que vous prétendez y entrer ? Car vous rencontrerez encore bien des difficultés. » Je connais, dit l'ignorant, aussi bien le chemin qu'un autre. Qu'avez-vous donc, continua le chrétien, pour montrer à la porte et qui puisse vous en faciliter l'entrée? Je connais, dit l'ignorant, la volonté de mon maître. Je ne suis ni adultère, ni injuste, ni ravisseur. Je rends à chacun ce qui lui est dû, je jeûne, je donne des dîmes, je fais des aumônes et j'abandonne mon pays pour arriver où je vais. Mais, dit le chrétien, vous n'avez pas passé par la porte étroite qui est à l'entrée du chemin, vous êtes entré dans la route, par une voie oblique, c'est pourquoi je crains, quelque bonne opinion que vous puissiez avoir de vous-même, que quand le moment de rendre compte sera venu, vous ne soyez regardé comme un larron et un brigand, bien loin que l'entrée de la cité vous soit accordée. « Messieurs, dit l'ignorant, je ne vous connais point et je vous suis pareillement inconnu. Qu'il vous suffise de pratiquer la religion de votre pays et laissez-moi suivre la mienne, j'espère que tout ira bien. Quant à cette porte dont vous me parlez, tout le monde sait qu'elle est fort éloignée de notre pays. Je ne crois même pas qu'il se trouve une personne qui connaisse le chemin qui y conduit. Aussi ne nous importe-t-il point de le savoir, puisque, comme vous le voyez, nous avons un chemin si agréable qu'il arrive tout droit depuis notre pays dans celui-ci. » Le chrétien, connaissant par là combien ce jeune homme était sage dans sa propre imagination, dit à l'espérant « Il y a plus d'espérance pour un fou que pour lui. » Et bien que le fou soit fou dans ses voies, il l'est moins que celui-ci. Que voulons-nous faire de plus? Devons-nous lui parler encore ou l'abandonner? Il me semble que nous ferions bien de prendre les devants et de lui donner du temps pour faire quelques réflexions sur ce qu'il vient d'entendre. Après cela, nous pourrons encore essayer de l'entreprendre. Peut-être sera-t-il mieux disposé dans la suite à nous écouter. L'espérant fut de cet avis et en même temps il se mit à chanter ce qui suit. Comment peut un aveugle aller le droit chemin, étant sans lumière et sans guide? Comment une tête stupide peut-elle, sans l'esprit divin, des mystères du ciel avoir l'intelligence? Ah! Si du moins ton ignorance, malheureux, t'excitait à suivre un conducteur, il pourrait encore t'introduire, par la clarté qu'il ferait luire, dans le chemin du vrai bonheur. Cependant, ils laissèrent l'ignorant derrière eux et arrivèrent ensuite dans un chemin fort obscur où ils rencontrèrent un homme qui était traîné par cette diable avec cette grosse corde vers la porte qu'ils avaient vue à côté de la colline. Ce spectacle effraya le chrétien en sorte qu'il était tout tremblant, aussi bien que l'espérant. Étant revenu à lui-même, il s'avança pour voir s'il ne connaîtrait point ce malheureux. Mais il ne put pas bien l'apercevoir parce qu'il baissait la tête comme un larron qu'on vient de saisir et qu'on mène en prison. Cependant, l'espérant remarqua en passant qu'il avait sur le dos un écrit portant ces mots: un méchant confesseur, un maudit apostat. Ceci, dit le chrétien, me rappelle le souvenir d'une histoire qui m'a été racontée autrefois et dont je vais vous faire le récit. Il y avait un homme nommé Faible en la foi, homme très bon, qui demeurait dans la ville de Sincérité. À l'entrée du chemin où nous marchons aboutit un autre chemin de traverse qui vient de la porte du chemin large et qui se nomme la rue des morts à cause de beaucoup de meurtres qui s'y commettent. Or, il arriva qu'un jour ce bonhomme faible en la foi, faisant le même voyage que nous faisons maintenant, s'assit dans ce chemin et s'y endormit. Dans ce moment survinrent trois méchants hommes, le timide, le méfiant et le coupable, qui venaient de la porte large et qui, ayant découvert le faible en la foi, coururent tout droit à lui. Le pauvre homme s'éveilla au bruit qu'ils firent et s'efforça de se lever pour continuer son voyage. Mais ces scélérats se jetèrent sur lui tous trois, à la fois avec de terribles menaces, lui commandant de s'arrêter. À ces menaces, le faible en la foi fut saisi d'une si grande frayeur qu'il devint pâle comme la mort et qu'il ne lui resta aucune force, ni pour combattre, ni pour fuir.